Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans les derniers dimanches après la Pentecôte, l'Église nous fait méditer sur les derniers temps. Et pour cela, elle prie avec les prières des anciens Hébreux captifs à Babylone, car la captivité de Babylone était la figure de ces derniers temps. Voici le commentaire que donne de l'introïde de cette messe le révérend Père Emmanuel du Ménil-Saint-Loup dans son petit livre « Les méditations pour tous les jours de l'année liturgique ». Je cite « En punition de ses péchés, l'Église d'Israël fut livrée à des tyrans cruels qui ruinèrent le temple, brûlèrent Jérusalem et emmenèrent en captivité le peuple tout entier. Dans les derniers temps, l'Église chrétienne, elle aussi, en punition des péchés de ses enfants, sera livrée à des tyrans qui la dépouilleront de ses biens, étoufferont sa voix, travailleront à empêcher l'oblation du Saint-Sacrifice et feront tout pour que l'Église ne puisse plus travailler au salut des âmes. » Et comme le fait remarquer le Père Emmanuel, il faut bien reconnaître que ces temps-là ont commencé. La perte de la foi, la rareté des vrais fidèles, l'insolence des méchants contre l'Église, on peut même dire l'apostasie générale, tout cela montre que ces temps sont déjà bien présents. N'allons pas pour autant fixer des dates ou imaginer quoi que ce soit. Ça durera le temps que le bon Dieu voudra bien que ça dure. Ce qui importe, c'est que nous, nous restions bien catholiques et que nous nous sanctifions. Alors, faut-il s'effrayer ? Faut-il se contenter de gémir ? Quand on voit tout ce qui se passe à Rome ou partout, on est bien tenté de gémir. Faut-il se laisser abattre et cesser de combattre ? Certainement pas. La pédagogie de l'Église est merveilleuse. Elle cherche au contraire à nous encourager et à nous consoler en empruntant les paroles que Jérémie adressait déjà aux fidèles de son temps pour leur annoncer que le châtiment n'aurait qu'un temps et que Dieu n'abandonnerait pas ses vrais fidèles, qu'il aurait pitié de leur âme. C'est ce que nous avons lu dans l'introïde de cette messe, c'est un texte de Jérémie. Voici ce texte. « Le Seigneur dit « Mes pensées sont des pensées de paix et non d'affliction. Vous m'invoquerez et je vous exaucerai et je ramènerai votre captivité de tous les lieux où vous avez été dispersés. » Voyez que l'Église nous encourage à la paix, la vraie paix. Et cette paix est très riche. Elle suppose beaucoup de belles choses. Au cœur de l'épreuve, de l'affliction, les pensées de Dieu sont des pensées de paix. Dieu nous veut en paix, il nous veut pacifiés, et même il nous veut pacifiques, c'est-à-dire faiseurs de paix, littéralement c'est ça que ça veut dire, pacifique, faiseurs de paix. Et pour que nous y parvenions, Dieu nous donne lui-même sa paix, la vraie paix, celle que le monde ne peut pas donner parce qu'il ne la possède pas. Alors sans doute, le monde a bien sa paix à lui. La paix dont les radios, les télévisions nous rebattent les oreilles. Mais c'est une paix trompeuse, une fausse paix, qui se contente de recouvrir, sans les détruire, tous les mauvais sentiments qui habitent le cœur des hommes. C'est le plus souvent une paix hypocrite, une feinte, un calcul dicté par l'intérêt, ou tout au moins c'est une illusion. Et nous le voyons bien, on n'a jamais autant parlé de paix, on n'a jamais eu autant de guerre. Dieu ne veut pas de cette paix-là. Dieu ne veut pas de ces réconciliations, de ces ententes apparentes, simulées, dans lesquelles les lèvres parlent de paix, mais les cœurs sont remplis de haine. Alors, quelle est cette paix que Dieu veut pour nous? Sur quoi doit-elle être fondée? Cherchons-en d'abord la définition. Vous connaissez la définition qu'en donne saint Augustin, elle est très connue. Dans la cité de Dieu, saint Augustin dit « La paix, c'est la tranquillité de l'ordre, le repos dans l'ordre. » Vous voyez dans cette définition qu'il y a deux éléments dans la paix, l'ordre et le repos. L'ordre d'abord. L'ordre, c'est la grande loi de l'univers. C'est la loi que Dieu a inscrite dans sa création et que toutes les créatures doivent chercher à réaliser le mieux possible. Donc la paix demande que l'ordre soit respecté, que chacun tienne sa place, tienne le rôle que Dieu lui a imparti et n'en sorte pas, que les inférieurs obéissent, que les supérieurs gouvernent selon leurs responsabilités, selon leurs devoirs. Voilà l'ordre voulu par Dieu. Mais il ne suffit pas que chaque membre d'un corps ou d'une société soit à sa place, à la place qui lui a été marquée, remplisse son rôle comme le bon Dieu a voulu qu'il le remplisse. Encore faut-il qu'il ne veuille pas quitter cette place, aspirer à un autre rang ou poursuivre un but qui ne lui a pas été assigné. Il ne faut pas qu'il y ait une espèce de fébrilité qui détruirait complètement cet ordre. Et c'est pourquoi saint Augustin ne s'est pas contenté de dire que la paix c'est l'ordre ou le respect de l'ordre, il a dit c'est la tranquillité de l'ordre, le repos de l'ordre. Approfondissons un petit peu plus et interrogeons cette fois saint Denis l'Aréopagite. Saint Denis l'Aréopagite dit que cette paix, telle que la définit saint Augustin, enfin saint Denis était avant saint Augustin, mais enfin la doctrine est la même. Il dit que cette paix a un triple effet sur les hommes. D'abord, elle unit chacun à lui-même. Elle réalise en nous l'unité, l'unité de vie. Ensuite, elle unit les hommes entre eux. On le comprend. Et enfin, elle unit à Dieu, parce que Dieu est le principe de cette paix, le principe même de cette paix. Donc, pour jouir de la paix de Dieu, pour être pacifique, nous devons chercher à être en paix avec nous-mêmes, en paix les uns avec les autres et en paix avec Dieu. Et il faut expliquer ces trois choses et dire exactement ce qu'elles signifient. Commençons par la paix avec Dieu, parce que c'est le fondement, c'est le plus important. L'homme n'est en paix avec Dieu que s'il jouit de l'amitié de Dieu. Pour être en paix avec Dieu, il faut faire sa volonté. Il n'y a pas d'autre possibilité. Toutes les fois que l'homme se révolte contre Dieu, il perd la paix. Avant le péché originel, Adam connaissait la paix, parce qu'il était dans l'amitié de Dieu. Après le péché, il l'avait perdue, et il cherchait à se cacher de Dieu, parce que justement, il n'était plus en paix. C'est le péché qui est l'unique cause du désordre dont souffre l'univers, et qui lui fait perdre la paix. Il n'y a donc qu'une seule voie pour trouver l'harmonie et la paix sur terre, un seul moyen pour empêcher les guerres, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. On aimerait que Rome nous rappelle cette grande vérité aujourd'hui. Or, c'est une vérité qui est tue. Comme le dit le psaume 118e, « Pax multa diligentibus legem tuam » La paix est abondante pour ceux qui aiment la loi, votre loi, la loi de Dieu. Mais on peut s'inventer une fausse paix avec Dieu. C'est le cas de celui qui méconnaît la vraie nature de Dieu, qui méconnaît son infinie sainteté, son horreur du péché, et qui se fait de Dieu l'idée d'un personnage bonhomme, accommodant avec le mal, qui accueille tout le monde dans son paradis, les bons et les méchants, les innocents et les pécheurs, les chrétiens et les hérétiques, tout le monde. C'est la conception devenue courante aujourd'hui. C'est celle qui transparaît dans tous les messages de paix et tous les enseignements du magistère conciliaire. C'est une vision qui est sentimentale, qui est fausse et qui même est blasphématoire si on réfléchit. Cette vision ravale Dieu aux dimensions que lui donne l'homme coupable. Cette vision ignore la justice de Dieu et sa volonté de châtier le mal. Car Dieu est juste, il ne peut pas ne pas châtier le mal. Il est miséricordieux sans doute, mais on ne peut pas opposer la miséricorde à la justice. Vouloir cette paix avec Dieu, cette fausse paix avec Dieu, c'est vouloir la tranquillité sans l'ordre. Ce n'est pas la vraie paix. Ensuite, nous avons dit que la paix unit l'homme avec lui-même. Pour avoir la paix avec soi-même, il faut instaurer le règne de Dieu et le règne de la raison dans cet univers en miniature que constitue chacune de nos personnes. Nous sommes chacun comme un petit univers, et pour que cet univers soit en paix, eh bien, il faut que l'ordre y soit respecté. Et le péché, précisément, a introduit en nous un état de guerre, un désordre. Et cet état de guerre consiste en ce que notre sensibilité, nos passions, blessées, se sont révoltées contre notre raison. Et notre raison s'est révoltée contre Dieu. C'est une révolution. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faudrait. Alors pour retrouver la paix, il faut opérer le mouvement inverse. Il faut replacer notre sensibilité, nos passions, sous le règne de la raison et soumettre notre raison à l'empire de Dieu. Voilà la paix promise aux hommes de bonne volonté, la paix que les anges ont chantée à Noël lorsque, pour rétablir cette paix précisément, le Fils de Dieu est descendu sur terre. À Noël, on l'appelle le Rex Pacificus. C'est tout un programme. Mais établir cette paix en nous, c'est difficile et il nous faut l'aide de Dieu. Parce que si notre Seigneur, par les mérites de sa passion, a bien vaincu le péché et nous a rendu la paix, en principe c'est vrai, mais les blessures du péché demeurent et elles demeurent enracinées en nous. Nous gardons en nous une tendance au mal, une tendance au désordre. Comme dit saint Paul, il y a dans nos membres une double loi. Nous faisons le mal que nous ne voulons pas faire et nous ne faisons pas le bien que nous voulons faire. Et puis là encore, on peut s'inventer une fausse paix avec soi-même. Lorsqu'on veut, par exemple, satisfaire les désirs déréglés de la chair tout en prétendant aimer Dieu, il y a une contradiction. Lorsqu'on suit ses propres volontés tout en déclarant à Dieu qu'on l'aime, lorsqu'on s'opiniâtre dans ses idées personnelles et dans la recherche de nos aises tout en faisant profession de fidélité à Dieu. On peut bien alors trouver une apparence de quiétude et même un bonheur éphémère, factice. Il y a bien des hommes aujourd'hui qui vivent loin de Dieu et qui paraissent être parfaitement en paix, qui semblent tout à fait heureux. C'est un faux bonheur. Au fond, c'est une forme de mensonge. On étouffe la voix de sa conscience pour avoir la paix. On cautérise sa conscience. Et cette fausse quiétude ne dure pas, elle ne peut pas durer. Les désirs qu'on a satisfaits pour un temps, parce que on a accordé tout ce qu'ils demandaient, alors, la volonté ayant ainsi cédé, ces désirs cessent de nous importuner. Mais c'est pour un temps. Bientôt, ils se réveillent et ils deviennent encore plus exigeants et encore plus arrogants. Et l'état de cet homme, comme dit l'Écriture, est pire qu'avant. Que l'état qu'il connaissait au départ. Et puis enfin, on est en paix avec le prochain. C'est la troisième forme de paix que le bon Dieu nous recommande. On est en paix avec le prochain quand on pratique à son égard la véritable charité fraternelle. Car la paix, comme la joie, est le fruit de la charité. Il ne peut pas y avoir de paix entre nous s'il n'y a pas de charité entre nous. C'est pas possible. On est en paix avec le prochain quand on ne lui fait pas ce qu'on ne voudrait pas qu'il nous fît. C'est un principe de la loi naturelle. On est en paix avec le prochain quand on ne se mêle pas de ce qui le regarde. On est surtout en paix avec le prochain quand on s'applique à supporter patiemment ses défauts et quand on évite de le juger ou de le critiquer, ce qui est une preuve d'orgueil et qui détruit la paix. On est en paix avec le prochain quand on cherche son vrai bien, c'est-à-dire qu'on veut que le prochain soit en Dieu. Et on se rappelle qu'il est lui aussi un enfant de Dieu. Mais là encore, on peut devenir l'ouvrier d'une paix menteuse. Si l'on prodigue au prochain des flatteries dont on ne pense pas le moindre mot, c'est un mensonge. Si on se fait complice du prochain dans le mal, il y a une certaine entente. Les complices, quand ils commettent entre eux des fautes, des crimes, s'entendent, mais c'est une entente qui est tout à fait fausse. Cette fausse paix, cette paix menteuse, existe encore lorsqu'on se dérobe au devoir de punir ou de châtier son prochain quand cela relève de notre responsabilité. Il y a bien des parents, par exemple, qui ne punissent jamais leurs enfants sous prétexte d'avoir la paix, de ne pas créer d'histoire. Après, on s'en mord les doigts, mais c'est trop tard. Cette paix, cette fausse paix avec le prochain, c'est la paix des lâches. c'est la paix des égoïstes, de ceux qui ne pensent qu'à eux, qui ne veulent pas d'histoire, et qui sacrifient le souci des intérêts de Dieu et des intérêts de la vérité à leur tranquillité personnelle et à l'estime des hommes. C'est une fausse paix. Dans la Sainte Écriture, on a un bel exemple de cette fausse paix. C'est l'exemple d'Élie, du grand prêtre Élie, qui avait deux fils. Ses fils étaient indignes, ils se conduisaient très mal. Et Élie, par faiblesse, refusait de les reprendre. Dieu l'a châtié sévèrement. Alors, dans le malheur des temps actuels, restons en paix. Gardons la paix et même, c'est beaucoup mieux, soyons pacifiques, faiseurs de paix. Et nous serons appelés fils de Dieu, puisque c'est cela que la béatitude des pacifiques promet. Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous serons alors vraiment enfants de Dieu. Mais souvenons-nous que cette paix est une grâce. C'est Dieu qui la donne. Il faut la lui demander. Ce n'est pas nos propres efforts qui nous permettront d'obtenir cette paix. On dit dans la Sainte Écriture, « Da pacem domine sustinentibus te »« Donnez la paix, Seigneur, à tous ceux qui espèrent en vous. » C'est une très belle prière. Et puis, prions la Sainte Vierge dans les litanies de Notre-Dame. Elle est appelée « Regina Pacis », »« Reine de la paix ». S'il y a bien quelqu'un qui peut nous obtenir cette paix, c'est Notre-Dame. Alors, prions-la qu'elle nous donne cette paix et qu'elle, dans ces tourments actuels, que jamais elle ne permette que nous soyons troublés profondément. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.